Dans les pages de débat des journaux, dans les colloques de sciences politiques, dans les reportages sur les marchés, on sent rôder la tentation de l'abstention. Et plus on va s'approcher de la date de l'élection présidentielle, plus les caméras vont se pencher sur cette étrange créature, l'abstentionniste. Que veut-il? Que refuse-t-il? L'abstention est-elle un geste citoyen ou un sabotage de la démocratie? Ce sera le débat de cette émission. Anne-Sophie avec trois invités.
Antoine Bueno, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chargé de mission au Sénat pour le groupe des centristes qui réunit 42 sénateurs.
Oui.
Bien, bravo. J'ai le bon chiffre.
Oui.
Vous avez été une des plumes de François Bayrou pendant sa campagne présidentielle de 2007.
Oui.
Vous êtes par ailleurs humoriste, chroniqueur de radio et de télé, mais aussi écrivain. Et vous venez de publier le livre « Nos votes, manifeste pour l'abstention », publié aux éditions Autrement.
Tout est juste.
Chouette.
Mais quelle documentation, c'est parfait.
Impec.
Ouais.
Hein.
Ouais, vraiment, bravo.
Je ne sais pas où vous êtes. Hein. Nos votes, c'est NO, c'est pas NOS, hein, je précise.
Ah non, surtout pas.
Voilà, nos votes, on peut peut-être montrer la courbe directe. Voilà. À vos côtés, Nicolas Framont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous enseignez à l'université Paris-Sorbonne, vous co-dirigez le trimestriel Frustration, vous proposez une critique sociale pour le grand public, dites-vous, et vous êtes notamment l'auteur d'un livre publié, lui, fin 2015, et qui s'intitule « Les citoyens ont de bonnes raisons de ne pas voter ». Voilà. Et je fais comme pour le livre d'Antoine Bruno, je le montre à la caméra. Et puis parmi nous, à vos côtés, messieurs Ramayad, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été secrétaire d'État sous la présidence de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2010. Vous avez été membre de l'UMP, puis membre du Parti radical. Et vous êtes aujourd'hui candidate à l'élection présidentielle sous la bannière de votre propre mouvement qui s'appelle La France qui ose. Et vous vous présentez comme la candidate de l'ascenseur social, pour reprendre une expression lue dans les journaux, ou tout du moins celle qui veut représenter les oubliés de la démocratie.
Combien de signatures, Aster? Combien de parrainages?
Ce sont encore des promesses. Hein.
Combien
donc,
de promesses?
J'en ai environ 400. Et autant qui attendent, qui réfléchissent.
Réfléchissent.
Donc je lance un appel, hein, j'en profite, pour ceux qui nous regardent.
Tous les maires qui regardent Arrêt sur Image. Il vaut mieux qu'ils ne réfléchissent pas trop longtemps.
Exactement.
Alors, l'abstention, Anne-Sophie, vieille compagne des campagnes électorales et des soirées électorales.
Et des soirées électorales. Alors, si j'en crois votre ouvrage, Nicolas Framont, l'abstention est relative, je vais en faire un petit peu l'historique, hein, elle est relativement stable jusqu'aux années 80, et période à laquelle elle commence à grimper, et ce, pour à peu près tous les scrutins. Alors, c'est moins sensible pour l'élection présidentielle, hein, puisque en 81, l'abstention représente environ 15%, et en 2012, dernière élection présidentielle à ce jour, voilà, on arrive à 20%. Vous avez préparé méga graphique derrière.
On va mettre en plein écran ce magnifique schéma que vous allez nous commenter, Anne-Sophie, en nous disant à quoi correspondent les couleurs.
Eh bien, les couleurs, c'est simple. Voilà, ça, c'est l'élection présidentielle, celle dont je viens évoquer maintenant. Et juste au-dessus, c'est les élections législatives. Alors là, on voit, par contre...
Alors, la municipale est orange, la législative est jaune... Et l'européenne est bleue.
Et ouais, et là, je m'attaquais aux législatives, la jaune, donc. En 86, on est aux alentours de 20% d'abstention. Et en 2012, dernière législative, on est quasiment à 45%. Voilà. Même topo hein, pour les municipales qui suit quasiment le même rythme.
Toup, les oranges.
Voilà, les oranges. Et puis alors les européennes qui sont... pas des élections pour lesquelles on se déplace en masse, parce que dès les premières élections, on était à 40% d'abstention, puis ça a grimpé jusqu'à quasiment 60% en 2009, avant de redescendre à 56% en 2014. Alors, c'est vrai que l'abstention record, c'est aussi un peu l'arlésienne des soirées électorales, comme le montre ce montage signé Adèle Bello.
Il y a un record d'abstention, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vous accable pas, bien sûr. Mais je vous dis de venir voter en vous rappelant qu'il y a dans le monde des hommes et des femmes qui risquent leur vie pour avoir le droit de vote.
Ma première réaction à ces estimations pour lesquelles il faut naturellement continuer d'être prudent, c'est qu'on a quand même une abstention qui est massive. On a 52% d'abstention, c'est-à-dire un record absolu.
Ce soir, le premier parti d'Île-de-France, c'est l'abstention.
Je vois ce vote ce soir comme aussi un vote d'inquiétude. Cette abstention record est préoccupante pour notre démocratie.
Cette progression continue d'abstention, même aux élections municipales, qui sont pourtant des élections qui mobilisent, est un appel à l'ensemble des partis républicains.
L'abstention reste le premier parti de France.
Alors, première question d'abord factuelle, hein, pour qu'on sache qui s'abstient en France. Les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux. On s'abstient plus dans les villes, on s'abstient plus dans les campagnes. Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit tableau ?
Alors déjà, on s'abstient. L'abstention est quelque chose qui dépasse beaucoup de catégories sociales. C'est un phénomène qui est large et donc on ne peut pas circonscrire à un groupe, à un genre ou à une classe d'âge. Mais on constate cependant qu'on s'abstient plus quand on fait partie des classes populaires, quand on est moins diplômé et quand on est jeune. Ça fait partie des trois critères qui nous permettent de définir ce que c'est le profil de l'abstentionniste.
Homme-femme ?
Je ne crois pas que ce soit une variable significative et c'est pas quelque chose qui nous a semblé clivant en la matière.
D'accord. Alors, votre livre s'appelle les bonnes raisons.
Les citoyens ont de bonnes raisons de ne pas voter.
Alors, quelles sont ces bonnes raisons ? Alors, pas toutes, mais quelles sont, à vos yeux, les principales bonnes raisons de ne pas voter ?
Alors, les bonnes raisons, alors déjà, quand on disait bonnes, hein, ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures ou qu'il faut ne pas voter, etc. C'est juste qu'on se rendait compte qu'il y avait cette critique moraliste de l'abstention ou misérabiliste. Et nous, on voulait un peu réhabiliter les abstentionnistes en disant il y a quand même des signes évidents qui permettent de comprendre cette attitude. Une des premières choses qui nous a frappé.
Bonne, ce n'est pas tout à fait synonyme d'évident, mais bon.
Oui. En tout cas, on a repris ce terme, évidemment, pour frapper aussi, pour montrer qu'il y avait des raisons tout à fait légitimes de le faire. Ces raisons légitimes, pour nous, c'est premièrement l'alignement idéologique des grandes formations politiques. C'est-à-dire qu'on se rend compte que si l'abstention augmente, par exemple, depuis les années 80, c'est que depuis les années 80, on assiste à un phénomène d'alignement de la droite et de la gauche, du Parti socialiste et des Républicains et tous leurs noms antérieurs, vers une sorte de même politique qui consiste en finalement respecter la mondialisation, essayer de réduire le coût du travail, d'augmenter la croissance, tous ces termes qu'on entend finalement dans tous les discours politiques. Pour nous, le mandat de François Hollande, c'est pour ça qu'on avait écrit le livre à ce moment-là, montrait vraiment cette évolution.
Quand c'est-à-dire les grandes formations politiques, en fait, vous voulez dire les partis de gouvernement.
Voilà,
pour être précis.
Le bipartisme, les forces qui contribuent au bipartisme.
Et au parti de gouvernement.
Et au parti de gouvernement. Voilà. C'est-à-dire
Il y a aujourd'hui d'autres partis en France, ça ne vous a pas échappé, qui ne sont pas des partis de gouvernement.
Tout
et donc
fait,
que
ouais.
vous n'incluez pas dans l'analyse.
Non. Non, non, effectivement, ce qu'on constatait, nous, c'était que les forces qui se sont succédées au gouvernement depuis les années 80 ont conduit globalement la même politique, évidemment avec des différences en termes de degrés, certains domaines sur lesquels il y a des désaccords, mais globalement, la politique économique et sociale est la même, le discours de justification est le même, et pour nous, ça nous semblait être un des premiers critères de justification de l'abstention.
Mais alors en quoi c'est une explication de l'abstention, sachant qu'il y a justement d'autres partis ? Qui ne sont pas des partis de gouvernement. Vous avez le Front National à droite et vous avez à gauche le parti de gauche, la France Insoumise et encore d'autres partis qui pourraient être des réceptacles du vote qui ne se reconnaît pas dans les partis de gouvernement. Et d'ailleurs qu'il l'est. Donc en quoi cette homogénéité des partis de gouvernement, selon vous, justifie l'abstention ?
Eh bien, si on était effectivement dans une démocratie qui permettait à n'importe quelle force politique d'émerger et à n'importe quelle force politique de pouvoir agglomérer les voix et d'avoir une audience, alors effectivement, il n'y aurait pas de raison de s'abstenir puisqu'il y aurait des enjeux à voter étant donné qu'on a un panel de tendances politiques, y compris des tendances hostiles au système capitaliste, hostiles à certaines grandes tendances. Mais il se trouve que ça ne se passe pas comme ça. Nous, notre analyse, c'est plutôt de montrer qu'il y a un verrouillage du système politique qui favorise ce bipartisme. Il favorise ce bipartisme pour de nombreuses raisons. Alors nous, on pense tout de suite aux raisons médiatiques. C'est ce qu'on voit à l'heure actuelle avec les derniers baromètres du CSA en la matière sont assez significatifs. Mais ça ne suffit pas à expliquer ça. Il y a aussi comment notre système représentatif fonctionne. Il donne systématiquement une prime aux formations déjà existantes. Le système, notre scrutin de liste par exemple, non proportionnel, fait que finalement ce sont les partis déjà représentés qui ont déjà une force, qui parviennent toujours à tirer leur épingle du jeu. En particulier aux législatives. Et d'ailleurs, ça explique beaucoup pour moi pourquoi les gens se mobilisent très peu sur cette élection.
C'est pas un scrutin de liste, d'ailleurs, s'agissant des législatives.
En tout cas, c'est un scrutin où les forces politiques déjà composées sont maîtresses du jeu, en quelque sorte. Et on s'est rendu compte...
C'est surtout du fait du scrutin majoritaire, ça.
Oui, le scrutin majoritaire, voilà. Effectivement, le scrutin majoritaire, exactement. En particulier, on s'est penché sur la gauche radicale. On peut se dire, bon, il y a eu une déception de la part à propos du Parti socialiste. Il y a eu un alignement idéologique à peu près depuis François Mitterrand et les différents moments de renoncement qui ont été pris par le PS. Pourquoi, dans ces cas-là, les électeurs ne se reportent pas massivement sur les autres? Eh bien, c'est précisément, il me semble, parce que notre système politique et institutionnel fait en sorte que, pendant longtemps, j'ai envie de dire jusqu'à l'année dernière, hein, il y avait une dépendance très forte, pour des raisons institutionnelles, de toutes ces forces de la gauche au Parti socialiste. Et donc ces mécanismes d'alliance, par exemple, à tous les scrutins, étaient essentiels au Parti communiste pour conserver ses circonscriptions, pour conserver ses élus, etc. Donc cette dépendance, cette monopolisation, par exemple, de la gauche par le Parti socialiste a empêché d'autres forces d'émerger. Et moi, il me semblait logique, par exemple, que quand on regarde les scrutins locaux, les départementales, les régionales, pourquoi les gens n'ont pas voté pour les listes de gauche radicale? Parce que finalement, il y avait une fusion qui s'opérait petit à petit avec le Parti socialiste. –
Juste, on va passer à votre camarade, mais juste sur ce point de la suggestion de la gauche au Parti socialiste, bon, il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans la même situation, c'est-à-dire que quelqu'un comme Mélenchon ne paraît pas particulièrement suggestionné ou sujet du Parti socialiste. Et pourtant, votre analyse, à vos yeux, reste valable.
– Alors, eh bien, en fait… l'analyse d'octobre 2015, pour moi, elle est nettement moins valable maintenant. Précisément.
Oui.
L'analyse.
Ah bon, d'accord. Alors,
non, mais c'est pas pour autant.
On fait l'émission trop tard. Là.
Non. Il a dit jusqu'à l'année dernière.
C'est pas pour autant que le livre est périmé. C'est
sur cet exemple. Expliquez-nous.
Sur cet exemple précis de la gauche radicale, puisqu'on parle de ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où on a écrit le livre, c'était la préparation des régionales, alors même que le Front de Gauche avait tenté en 2012 de s'émanciper du Parti Socialiste, il revenait par des mécanismes d'alliance.
Non, mais là on est en 2017. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, en 2017, par exemple, les électeurs de la gauche radicale auraient de moins bonnes raisons de s'abstenir que quand vous avez écrit votre livre il y a 2 ans?
Eh bien oui, je le crois.
D'accord.
Précisément parce que Mélenchon, en faisant le mouvement France Insoumise, il a fait un mouvement de telle sorte qu'il ne puisse plus être assujetti au Parti Socialiste.
Il faut faire une réédition.
Ah, mais il faudra absolument.
Il faut le compléter, franchement.
Mais pour autant, c'est pas gagné, parce qu'on constate que s'il n'y a plus d'assujettissement, on va dire, institutionnel, on a encore actuellement des appels à rallier Benoît Hamon, à rallier le Parti Socialiste, parce qu'il y a toujours cette idée que le Parti Socialiste est finalement la grande force agglomérante de la gauche, et que donc aucune force indépendante n'a le droit d'exister.
Antoine Bueno, pour vous, les raisons de s'abstenir, les principales, à vos yeux, sont les mêmes que celles de.
Alors, je présenterai les choses un petit peu différemment en essayant de répondre très précisément à la question. Je vais vous donner 3 bonnes raisons de ne pas voter. Je ne sais pas si c'est les raisons d'ailleurs qui président à l'abstention de la plupart des gens, mais en tout cas, ce sont les miennes.
Les miennes.
Alors, première raison, c'est qu'une part importante du pouvoir est entre des mains d'autorités non élues. Ça n'aura échappé à personne. Prenez un exemple qui est quand même assez flagrant, c'est celui des ministres. Alors, les ministres peuvent être élus, mais ils ne le sont pas forcément. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. C'est un fait, c'est comme ça. Autre exemple, alors là, encore plus flagrant, c'est celui des commissaires européens. On sait que aujourd'hui, moi, je trouve ça très bien, mais l'Europe a un certain pouvoir. Et les commissaires européens qui ont le pouvoir principal en Europe, qui constituent le gouvernement européen, pour faire une assimilation avec ce qui existe au niveau national, eh bien, ceux-là ne sont absolument pas élus. Ça, c'est la première raison. Ensuite, les deux autres raisons tiennent à ce que sont les élus aujourd'hui en France. Ça peut évoluer. Aujourd'hui, vous avez 2 catégories d'élus. Vous avez 9 élus sur 10 qui sont des élus d'Assemblée. Et il se trouve que dans notre système institutionnel, tous les élus d'Assemblée, je ne parle pas que de l'Assemblée nationale ou du Sénat, c'est-à-dire uniquement les Assemblées nationales, non, aussi l'Assemblée européenne, c'est-à-dire le Parlement européen et les Assemblées locales, toutes ces assemblées-là n'ont absolument aucun pouvoir. Ce sont de pures et de strictes chambres d'enregistrement.
Vous avez dit 9 sur 10 ?
À peu près, oui, c'est cette proportion-là.
Par exemple, les conseils municipaux, vous les considérez comme des assemblées ?
Bien sûr, tout à fait. Ils n'ont absolument aucun pouvoir. C'est une mascarade totale. Ils sont là pour entériner des décisions qui sont prises par l'exécutif municipal. Et cette logique-là, elle se retrouve à tous les niveaux, à tous les échelons de gouvernement.
Donc là, je tiens quand même à rappeler que vous travaillez au Sénat.
Oui.
Donc vous êtes employé dans une assemblée.
Oui, tout à fait. Je suis donc plutôt...
Donc vous dites qu'elle n'a aucun pouvoir.
Oui, je suis donc plutôt bien placé pour savoir de quoi je parle. Oui. Et d'ailleurs, je pense que si on interrogeait, on verra ensemble, mais les sénateurs, ils seraient les premiers à dire qu'effectivement, ils aimeraient avoir plus de pouvoir et qu'ils ont peu de moyens d'action.
Vous êtes attaché parlementaire d'un sénateur, c'est
ça ? Non, moi je travaille pour un groupe qui est le groupe centriste.
D'accord. Mais vous êtes salarié du groupe ou du Sénat ?
Je suis salarié du groupe, mais en fait, il y a un montage et donc indirectement, c'est le Sénat.
D'accord.
Il y a un montage, disons que... Donc en fait, il y a une association, qui me paye, mais c'est de l'argent qui vient du Sénat.
D'accord.
Voilà. C'est pas moi qui ai fait les règles.
Vous avez tout compris?
Moi, je suis administrateur du Sénat.
Pardon?
Moi, je suis administrateur du Sénat.
Encore aujourd'hui?
Non, enfin, je suis en disponibilité de mon administration.
Pour la campagne?
Ah non, 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 depuis 10 ans.
Depuis 10 ans, d'accord.
Okay. Je suis salarié du Sénat sur décision du groupe. Ça va?
Vous êtes salarié du Sénat sur décision. Je n'ai pas tout compris, mais.
C'est pas le sujet du tout.
C'est quand même important de savoir de qui parle et d'où on parle. Vous n'avez pas peur pour votre job?
Si, j'ai tout à fait eu peur pour mon job. Et pour l'instant, je touche du bois, je ne suis pas menacé, ce qui est plutôt une preuve de santé du système, pour le coup. Parce que s'ils se sentaient très menacés, assiégés, ils auraient pu effectivement me menacer, mais ce n'est pas le cas. C'est donc qu'ils sont assez ouverts au débat.
Alors, il y avait une troisième raison?
Oui, la troisième raison, c'est qu'il vous reste donc un élu sur 10, ceux des exécutifs. Là, vous pourriez tout à fait me dire, ceux-là, ils peuvent agir, pourquoi ne le font-ils pas? Tout simplement parce qu'ils sont dans une logique carriériste et clientéliste, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de décisions qu'ils ne peuvent pas prendre, et par ailleurs, il y a des décisions qu'ils peuvent prendre. Les décisions qu'ils ne peuvent pas prendre, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est des décisions qui sont foncièrement impopulaires, c'est suicidaire, on ne promet pas du sang et des larmes, Churchill l'a fait, il a gagné la guerre, il n'a quand même pas été réélu, et puis par ailleurs, ils ne peuvent pas prendre un certain nombre de décisions qui pourraient aller dans l'intérêt de la majorité, mais qui entrent en conflit avec des intérêts constitués minoritaires.
D'accord. Toute cette peinture que vous faites, là, elle s'applique aujourd'hui, mais elle s'appliquait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui... Alors, est-ce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que depuis 50 ans, finalement, voter ne sert à rien, ou est-ce que quelque chose s'est accentué, devenu plus aigu aujourd'hui, et quoi?
Alors, tous les deux, en général. Alors, d'abord, il est vrai que par nature, le système représentatif est conçu comme un intermédiaire entre monarchie absolue et démocratie directe pour permettre à ceux qui avaient fait la Révolution française, c'est-à-dire une certaine catégorie sociale, de conserver le pouvoir. Donc, par nature, il est foncièrement conservateur, si ce n'est immobiliste. En revanche, ça c'est pour la pérennité. En revanche, oui, il y a quelque chose qui a évolué, c'est que jusque dans les années 80, justement, il y avait une très importante menace et force de gauche qui trouvait à s'exprimer ailleurs que dans les partis. C'était la force syndicale, c'était la peur, la crainte de révolte, de révolution, et c'était le grand frère, l'Union soviétique, qui, tout ça, agissait comme un aiguillon sur les forces politiques pour mener ce que moi j'appelle être des réformes relevant du progrès. Aujourd'hui, ça n'existe plus, et donc vous avez ce qui reste du système représentatif, c'est-à-dire fondamentalement le centrisme non réformateur ou à peine réformateur pour que rien ne change.
D'accord. Et je rappelle que vous êtes attaché au groupe centriste.
Oui, justement, c'est pareil, je sais bien de quoi je parle. Voilà.
Comprendra qui pourra. Oui. Ramayad, alors, quelles sont les raisons aujourd'hui qui vous allez parler éventuellement aux gens qui nous regardent, aux électeurs, aux gens qui sont tentés par l'abstention, quelles sont à vos yeux les raisons d'aller voter à la présidentielle le mois prochain?
Ah, positivement cette fois. Pourquoi ils doivent se mobiliser?
D'aller voter. Oui. Enfin, de ne pas s'abstenir, si vous préférez.
Moi, tout l'enjeu de ma sortie de ce système-là qu'ils viennent décrire pour lancer un mouvement nouveau, c'est pour aller parler de manière privilégiée aux abstentionnistes, justement. Parce que j'ai aussi compris la limite... les limites qui viennent d'être décrites par nos deux amis qui ont bien vu pourquoi ce système-là ne pouvait qu'engendrer de l'abstention. Donc moi, en tant qu'actrice, je l'ai encore plus éprouvé. Et donc, à partir de là, je ne pouvais plus m'attarder dans un système pareil.
Qu'est-ce que vous leur dites aux abstentionnistes? Alors, je veux dire, les abstentionnistes qui vont vous sortir leurs arguments, là, répondez quoi?
Ils ont raison de refuser de voter pour le système partisan traditionnel, parti de gouvernement, parce qu'ils sont en échec, parce qu'ils sont idéologiquement pareils, parce que, toutes les raisons qui viennent d'être expliquées. Et donc nous sommes là aussi pour proposer, on n'est pas nombreux, une alternative à ce système-là. Et un antidote au Front National. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation telle que les gens qui ne sont pas contents, les Français qui ne sont pas contents, qui ne veulent donc pas du système, n'ont qu'un seul choix, tellement cette démocratie est verrouillée, c'est le vote Front National, le vote extrême droite, qui est le vote protestataire, c'est le vote qui monte. À mon avis, les courbes là doivent être exponentielles. Et donc l'idée, c'est de dire, il n'y a pas que ces deux fatalités-là, il faut proposer un nouveau choix politique aux Français, deux nouveaux choix, qu'on soit nombreux d'ailleurs à être sur ce terrain de la refondation, pour que précisément l'abstention baisse. Moi, quand je parle de la France des oubliés, C'est pas forcément le terrain le plus facile de s'engager là-dedans, parce que les bataillons d'électeurs ne sont pas dans la France des oubliés, c'est-à-dire la jeunesse, c'est-à-dire les petits entrepreneurs, c'est-à-dire les territoires oubliés, les quartiers populaires, les territoires ruraux, ce sont là que sont les abstentionnistes. Et alors que les votants sont plutôt les personnes âgées, sont les gens bien insérés dans la mondialisation, bien connectés, et ceux-là, je m'adresse aussi à eux, mais j'ai voulu axer sur la France des oubliés, sur les abstentionnistes, pour les faire revenir, parce que cette France-là, moi je l'ai vue, j'ai vu de parcourir ces 8 derniers mois 80 000 km dans les campagnes françaises. Ce ne sont pas des personnes qui sont aujourd'hui en révolte, ils ne sont même plus en révolte, ils sont en retrait du champ démocratique. Et ce qu'on entend dire, c'est, mais de manière très régulière, et je pense qu'ils ont raison de le dire, nous ne sommes plus en démocratie. Et c'est la raison pour laquelle on réinvente de nouveaux modes d'expression démocratique, de participation. Or,
en quoi la participation à une campagne présidentielle est un nouveau mode d'expression démocratique? Je veux dire, il n'y a rien de plus traditionnel.
Non, je ne parle pas de la présidentielle.
Non, mais là, ce que j'allais dire. Une présidentielle.
Oui, parce que pour porter cette voix-là, travers un nouveau mouvement qui se veut l'agrégation de plusieurs mouvements de type régionaliste, écologiste, des mouvements citoyens, où on brainstorm sur l'élection sans candidat, sur le tirage au sort. Quand je fais des propositions comme la transformation du Conseil économique et social en Conseil national des Français, à savoir que dans chaque département, on tirerait au sort une personne, un chômeur, une mère au foyer, un agriculteur, un chef d'entreprise, pour représenter le département au sein de ce Conseil national des Français et donc participer au processus législatif, c'est une manière de dire que le tirage au sort, c'est aussi une autre manière de réinventer la démocratie, de faire participer les citoyens. Il y a des solutions alternatives et à travers
Excusez-moi, mais quand vous développez tous ces thèmes, vous rencontrez une oreille attentive.
Très attentive, parce que ces thématiques-là, ces nouvelles modalités de participation démocratique, elles existent déjà aujourd'hui dans les territoires, sur le terrain, dans des associations, dans des mouvements citoyens, dans des mouvements régionalistes. Et ils n'ont pas encore trouvé une expression nationale. C'est pour ça que je me présente à cette présidentielle, pour leur donner cet écho national. Et c'est pour ça aussi qu'aux législatives, on va présenter des candidats pour que ça émerge sur le plan national.
Est-ce que Ramayad vous convainc ?
Non. Non, désolé, mais pas du tout, non.
Non, j'ai entendu tout à l'heure, vous parliez de l'action de François Mitterrand comme d'un renoncement, j'ai compris.
Non, mais je pense que vous prenez acte de la situation, mais comme beaucoup, vous y répondez par quelques mesures. Moi, par exemple, le tirage au sort, c'est très à la mode. Pour moi, le tirage au sort, c'est surtout quand c'est partiel, c'est-à-dire que vous dites vous allez prendre des gens pour faire du tirage au sort et du coup ça sera des comités consultatifs, etc. Moi je pense que ça rencontre un grand scepticisme.
Aucun de ces mots, mais c'est pas grave.
Je pense en tout cas, enfin tel que moi je le vois dans d'autres programmes, je parle pas forcément du vôtre, on constate que la démocratie représentative ne convainc plus les foules. Du coup on va adjoindre à cette démocratie représentative des mesures comme le tirage au sort, des conseils citoyens, etc. Ce qui se fait d'ailleurs déjà, de la démocratie participative, ce genre de choses, mais on change rien au fond du problème qui est tout de même le fonctionnement de nos institutions républicaines, qui est le fonctionnement du Parlement, qui est la surreprésentation des classes supérieures dans ces institutions-là.
On ne va pas interroger là-dessus, mais je le fais aussi. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut une démocratie collaborative qui change par les institutions. C'est pour ça que je crois d'abord que ça passe par une réduction du nombre de parlementaires, par du scrutin proportionnel. Ça passe aussi, évidemment, par un rééquilibrage avec une présidence qui est de plus en plus monarchique. Moi, j'en parle aussi.
Vous développez vos thèses. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de développer ce qu'on appelle une candidature de témoignage. C'est bien ça. C'est pour ça que vous vous présentez. C'est pour proposer un certain nombre de thèses, pour témoigner sans aucun espoir d'être élu. Mais vous estimez que l'élection présidentielle, si vous arrivez à réunir les parrainages, peut vous offrir une tribune.
Pour passer à la télé. Non,
mais passer à la télé, vous dites ça sur un ton négatif.
Très négatif ce que vous venez de dire.
Mais popularisez vos thèses, ça n'a rien de négatif.
Mais je vais le faire, si vous voulez.
Et notamment par la télé, oui.
Non, c'est pas...
Vous voulez pas passer à la télé ?
Non. Ah bon ? Passer à la télé pour passer à la télé, ce n'est pas mon objectif.
Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit passer à la télé pour...
Non, mais le témoignage donne... le témoignage donne le sentiment qu'on est là pour faire un tour et se montrer, et puis basta.
Comment vous définiriez votre candidature ? Comment vous l'appelleriez ?
Mais je me présente pour gagner l'élection présidentielle.
D'accord.
Et je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'il en soit autrement. Je veux dire, quand on se prépare pendant 3 ans, qu'on fait un programme, qu'on réunit des experts, qu'on est tous les jours dans les territoires les plus reculés du pays, que personne ne va voir, qu'on se dote de financement, tout ça n'est pas simple, qu'on va chercher des parrainages à travers le pays, c'est-à-dire en avoir 400, c'est avoir parlé moi-même avec 4000 maires. Donc convaincre chacun d'entre eux, ce n'est pas un parti qui vous fournit comme ça automatiquement, comme les autres qui n'en ont jamais vu à l'horizon, mais qui en ont déjà 3000. C'est pas ça. Quand on fait tout ça, ce n'est pas pour témoigner. Sinon, on va dans une primaire, on fait 2% et puis on a un poste. Et on ne fait pas tous ces efforts.
Okay,
donc, je pense qu'on est dans un système qui est aujourd'hui à bout de souffle. C'est une époque qui se termine et qu'il faut aujourd'hui lancer un nouveau cycle. Moi, je voudrais faire partie des refondateurs.
Très bien. Alors, je voudrais revenir sur le centre de cette émission qui est l'abstention. L'abstention, est-ce que c'est une démarche citoyenne positive ou est-ce que c'est un sabotage de la démocratie? Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans les grands médias, quand le thème est abordé, l'abstentionniste n'est pas vraiment vu sous un jour positif.
Oui, effectivement, les chroniqueurs de ces grands médias, justement, sont plutôt opposés à l'abstention. Alors, dans votre livre, Nicolas Framont, vous citez le journaliste de France Inter, Thomas Legrand, qui, dans une chronique de mars 2015, juge l'abstention comme étant au mieux de la paresse, au pire le témoignage d'une irresponsabilité individuelle. Et on retrouve cette même tonalité chez le philosophe Raphaël Antoven. C'était au micro d'Europe 1 en décembre 2015, au lendemain du premier tour des législatives.
On a toujours parlé gentiment aux abstentionnistes, on a toujours présenté leurs gestes comme le symptôme d'un mal démocratique plus profond, dont ils seraient d'abord les victimes. On a toujours fait semblant d'entendre le silence des gens qui ont choisi de se taire. Dans le pire des cas, on les appelle à prendre leurs responsabilités, c'est pas franchement insultant. On a toujours eu peur de les braquer en leur disant ce qu'on pensait d'eux.
Bon, mais alors qu'est-ce que vous pensez des abstentionnistes?
Oui, d'accord. Écoutez, que ce sont des feignants et des ingrats qui négligent les acquis que d'autres ont payés de leur vie. Que ce sont des gagne-petits qui veulent des droits sans devoir, des malhonnêtes qui brandissent la nullité des politiques, opportunément, pour justifier leur flemme. Des irresponsables qui s'en remettent à des gens qu'ils n'ont pas élus pour gérer les transports, la culture ou les lycées. L'abstentionnisme, c'est pas seulement l'indice d'une inquiétante dépolitisation qui impose aux élus de faire leur mea culpa. Non, c'est aussi l'indice d'une inquiétante nullité du corps électoral en personne.
Bim. Non mais ça c'était en 2015, ouais, d'accord, ouais. On était au lendemain des élections régionales.
Je ne sais pas si on peut vraiment...
C'est pour ça qu'on va vous en passer un autre.
Mais oui, parce qu'on était en 2015, donc au lendemain des élections régionales, et là maintenant on est en 2017, ouais. Et qu'est-ce qu'on dit de l'abstention alors qu'arrivent les élections présidentielles, ouais, dans quelques semaines? Et bien là encore pas vraiment du bien, enfin en tout cas pas du bien dans la bouche de la vice-présidente de l'IFOP, Laurence Parisot, qui était invitée en votre compagnie sur le plateau de C'est Polémique sur France 5. Et c'était le 12 février dernier.
Que vous vous posiez la question du sens de l'abstention et que vous ayez une réflexion sur le sujet, c'est très bien. Mais que vous encouragiez des gens à vous abstenir, c'est scandaleux. C'est à force d'inciter à des comportements de ce type qu'effectivement, on pourrait basculer dans quelque chose qui pourrait être terrible et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Au deuxième tour, s'il y a un candidat et Marine Le Pen...
La question. Bah c'est, voilà. On parle bien de ça, Laurence Parisot, depuis tout à l'heure. Et énormément de Français se posent la question et seront peut-être...
Vous vous abstenez.
Oui, je m'abstiens. Tentez pas. Alors, mais si tout le monde s'abstient... Oui.
C'est irresponsable. Oui.
Attendez.
Pourquoi c'est irresponsable? Attendez, je comprends pas.
Parce qu'il y a un risque de mettre à la tête du pays quelqu'un qui a une approche totalitaire.
Alors, Alors, évidemment, c'est...
Voilà, je suis contente de vous avoir démasqué tous les deux.
Ah là, bon,
mais
alors...
Attendez pas,
les bouche bée, là.
Ah oui, non, là je m'attendais pas du tout à ça. Oui,
cet argument-là.
Ça a été... Bah, qu'on me traite de frontiste, parce qu'il faut dire les choses, il faut appeler les choses par leur nom.
Non, c'est pas ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de dire que l'abstention peut faire élire Marine Le Pen.
Je vous ai démasqué.
Ça veut pas dire...
Oui, enfin bon...
Ça veut dire, vous roulez pour, voilà, de manière masquée, vous êtes complice. Alors, effectivement...
Alors, en mettant la polémique à part, en mettant Enthoven à part, parce que les flemmards, etc., les paresseux, etc., voilà, et en partant du principe que, effectivement, le préconiser l'abstention est un acte politique majeur. Réfléchi, argumenté, ce qui est le but de cette émission. Ouais. Sur cet argument que, effectivement, dans un deuxième tour face au Front National, préconiser l'abstention peut faire élire Marine Le Pen.
C'est l'argument.
Alors, est-ce que d'abord c'est un argument que vous recevez ?
Bien sûr, je le reçois d'autant plus que j'ai dû y réfléchir pour honnêtement me poser la question de savoir si je continuais d'écrire le livre ou si je trouvais encore de bonnes raisons de s'abstenir même dans ce cas de figure.
Alors
ma réponse est assez simple. On a aujourd'hui une stratégie républicaine qui nous est proposée par l'offre politique, les partis républicains, qui est de voter utile, c'est-à-dire de se mobiliser pour voter, au moins voter contre le Front National. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce vote utile permet d'exonérer les forces politiques dites républicaines de faire d'autres propositions. Ça, pour moi, ça peut marcher encore un temps, ça a marché jusqu'ici, c'est catastrophique, structurellement catastrophique, justement parce que le Front National se nourrit du fait qu'on ne propose rien et que structurellement le système institutionnel soit immobiliste et conservateur. C'est la raison pour laquelle moi, je propose à mon niveau, hein, mais je ne suis sans doute pas le seul, une stratégie alternative de lutte contre le Front National qui est très simple, qui est de dire que si des gens ont rejoint le Front National un jour, ils peuvent aussi en partir, qu'ils ne sont pas plus stupides que les autres, hein, les électeurs du Front National, et que dans un premier temps, on peut tout à fait essayer de les convaincre, comme les autres, de s'abstenir plutôt que de voter FN, parce que moi, je démontre dans mon livre deux choses. La première chose, c'est que le véritable acte protestataire, contestataire, une fois qu'on est appelé aux urnes, c'est pas de voter FN, c'est de s'abstenir. Et la seconde chose, c'est que le programme du Front National est totalement nul et ne pourrait absolument pas fonctionner.
Donc, vous savez que vous allez avoir du mal à convaincre les électeurs du Front National de s'abstenir.
Oui, mais enfin, c'est parce qu'on aura du mal qu'on n'essaye pas. Hein.
Non, mais vous savez qu'ils n'ont pas du tout envie, en fait. Et vous savez, dans l'électorat aujourd'hui, les électeurs du Front National sont, en gros, ceux qui ont le moins envie de s'abstenir.
Alors, vous avez l'air de très bien les connaître, et moi, je les connais moins bien que vous, et je me dis que peut-être...
Je ne connais certainement pas mieux que vous.
Mais... Non, mais voilà.
Il y a une certitude de vote qui est très haut, qui est le plus haut.
Alors, voilà, c'est ce qu'on dit.
Vous en doutez?
Oui, j'en doute
parce que vous les connaissez.
Non, c'est pas ça. C'est que c'est un parti pris. Je prends le parti pris de dire qu'ils sont pas différents des uns et des autres et qu'à partir du moment où on leur démontre quelque chose, ils sont accessibles au raisonnement. C'est tout. Mais j'en connais pas particulièrement. Et puis, je fréquente des milieux où il y a peu de gens qui vont voter FN, donc je les connais sans doute pas très bien.
Sur votre stratégie alternative, je comprends très bien que vous disiez ça aujourd'hui parce qu'on est avant le premier tour.
Oui.
Mais à supposer qu'on se retrouve au lendemain du premier tour, donc à un second tour, Marine Le Pen contre Fillon, Macron, Hamon, Mélenchon ou je ne sais qui.
Oui.
Vous continuez à préconiser l'abstention?
Oui, je continue à le préconiser.
Dans ce cas de figure...
Parce que j'ai pas terminé ma démonstration en disant que si une abstention se structure pour demander des réformes institutionnelles qui aboutissent, là, on tarit la source du Front National puisqu'on aboutit à des réformes possibles. J'espère un système institutionnel...
Mais vous dites ça au lendemain du premier tour, vous dites ça. C'est-à-dire que alors
moi, je continue d'avoir mon discours. Je ne vais pas changer parce qu'il y a eu un premier tour. Voilà.
D'accord.
Mais attendez.
Au risque de faire élire Marine Le Pen.
Oui. Et je dis, alors après, je dis quelque chose.
C'est le risque que vous prenez.
Tout à fait. Et c'est là que mon discours est absolument abominable et qu'il ne faut pas dire ça, etc.
Mais vous allez quand même le tenir.
Je vais quand même le dire, puisque de toute façon, je l'écris aussi dans le livre. C'est qu'il y a plusieurs cas de figure de l'accession au pouvoir de Marine Le Pen. Elle peut accéder à la présidence. J'espère pas et j'y crois pas trop cette fois-ci. Mais enfin, bon, elle pourrait être élue présidente de la République. Il est extrêmement, extrêmement...
Vous savez que c'est un cas de figure possible.
C'est tout à fait possible. En revanche, il est extrêmement improbable, alors là, ça serait du moins quelque chose que personne n'a anticipé, qu'elle ait une majorité. Donc là, c'est un cas de figure.
En même temps, sous la Ve République, tous les présidents nouvellement élus ont toujours obtenu une majorité aux législatives qui ont suivi dans la foulée, tous.
Oui. On a eu Trump, on a le Brexit, et aujourd'hui, on a une offre électorale qui est inédite, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait être dans un moment de rupture où quelque chose d'autre se produit. C'est tout à fait possible.
C'est-à-dire qu'elle soit élue et qu'elle n'ait pas sa majorité.
Tout à fait. Qu'elle soit élue parce que c'est un parti, d'ailleurs comme celui de Macron, où on suit une personne, mais...
Elle sera élue, tant qu'on la suivra.
Eh ben oui, elle est élue elle-même, mais je vois mal ensuite.
D'accord.
Mais peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Je me dis qu'en tout cas, il y a une faible probabilité pour qu'elle ait une majorité.
D'accord. Mais peut-être que vous vous trompez, mais vous pensez quand même que ça vaut le coup de prendre le risque.
Je me dis qu'il y a une tellement forte probabilité pour que, un, elle ne gagne pas, et que si elle gagne, elle n'a pas de majorité, que ça peut aussi être un bon moyen de s'en débarrasser. C'est un petit peu plus vicieux que ça. Parce que je me dis qu'à partir du moment où elle est présidente de la République, où elle ne peut pas appliquer son programme, elle entre dans le système institutionnel et du coup, elle en est décrédibilisée. Et alors, encore mieux si les partis républicains de droite finissent par lui faire une offre de gouvernement. C'est comme ça que Mitterrand a eu raison de l'extrême gauche, en particulier du Parti communiste. Et je suis absolument persuadé que c'est la seule stratégie à avoir du point de vue de la droite républicaine pour se débarrasser de l'extrême droite.
Bon, alors, on est tous là autour de cette table. Finalement, on lit dans la boule de cristal parce qu'on ne sait pas ce qui se passera. C'est juste une question de est-ce qu'on prend le risque ou pas, quoi.
Ah oui, la politique, c'est des risques calculés. C'est voilà. Comme ça, la politique. Tout le monde prend des risques calculés. Rama, quand elle se présente comme ça, elle prend un risque calculé. Elle se dit que son image peut être écornée, mais elle se dit qu'elle a plus à faire et à gagner à se présenter. Bon, voilà. C'est un risque.
Sachant qu'effectivement, une des possibilités, c'est que ça se passe comme vous le dites, c'est-à-dire qu'effectivement, elle soit élue, mais qu'ensuite, elle ne puisse pas appliquer son programme pour une raison ou pour une autre, qu'elle se plante, que son programme croule sous sa propre incohérence. Tout ça, c'est possible. L'autre possibilité, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, les deux ne sont pas incompatibles, qu'effectivement, elle soit élue, elle déclenche je ne sais quelle dynamique sociale dans la police, dans la gendarmerie, dans la justice, au moyen de nominations de magistrats, qu'on se retrouve dans des situations partout dans les banlieues de police ou de gendarmerie se sentant totalement bénéficiant de l'impunité et reproduisant des Adama Traoré un peu partout. Mais enfin, voilà, ça, c'est un risque que vous prenez, vous dites « je le prends ».
Je vais vous répondre oui pour aller jusqu'au bout de ma logique. Oui, parce que j'y crois pas du tout.
Vous raisonnez de la même manière, c'est-à-dire vous dites effectivement, en préconisant l'abstention, le risque de faire élire Marine Le Pen existe, mais finalement, j'y crois pas, donc je le prends. Est-ce que votre raisonnement est le même ?
Non, pas du tout, parce que déjà, je préconise pas l'abstention. Notre objectif avec Thomas Amadieu, c'était d'utiliser l'abstention. Pour nous, c'était un révélateur, c'était une porte d'entrée pour mener une critique construite et radicale de la classe politique et du fonctionnement des institutions. À partir de là, nous, ce à quoi on appelait, ce à quoi on appelle toujours, c'est de remettre du clivage dans la vie politique, de renouveler la classe politique.
Attendez, il y en a du clivage. Je ne sais pas si vous écoutez Le Pen, Mélenchon. Enfin, il y a du clivage aujourd'hui dans la.
Mais justement, c'est pour ça que je vous dis que moi, à l'heure actuelle, je suis pas du tout dans une perspective de militer pour l'abstention.
Vous faites quand même un livre qui s'appelle Les bonnes raisons de ne pas voter. Voilà. Alors, sans que ce soit un appel, si vous voulez, on va dire que c'est un catalogue de bonnes raisons de ne pas voter. Vous êtes d'accord avec ça ?
Non, je pense que c'est une réponse au genre d'intervention scandaleuse. Alors, celle d'Enthoven était la pire, mais il y en a plein d'autres qui sont très fortes dans les discours des politiques, des intellectuels, etc., qui consistent à avoir une approche misérabiliste ou moraliste de l'abstention. Ça nous semblait inacceptable. Et derrière, on a voulu expliquer quels étaient les symptômes et ce sur quoi on pouvait travailler si on voulait faire reculer l'abstention, si on voulait que la démocratie représentative soit encore un enjeu pour que les gens se déplacent. Mais il ne s'agit pas de dire que l'abstention est une réponse. Moi, je n'y crois pas. Quand vous dites, pour une raison très simple...
– Vous ne croyez pas que l'abstention soit une réponse ?
– Je ne pense pas, je comprends. –
Vous faites tout un livre qui s'appelle « Les bonnes raisons de ne pas voter », mais en même temps, vous personnellement... Non, mais par exemple, vous personnellement... Vous allez voter ou pas ?
Alors, par exemple, moi, je me suis abstenu dans les élections où j'estimais que, de toute façon, il n'y avait aucun enjeu. Moi, les derniers scrutins locaux, par exemple, tout était plié d'avance, etc. C'est des scénarios qui me dépassent. Il y a trop de filtres à l'œuvre pour que ma voix porte.
Et là,
au présidentiel, oui. Moi, je vote au premier tour, par exemple. J'ai l'impression, cette année, en 2017, qu'il y a des enjeux et qu'il y a possibilité que ma voix fasse la différence.
D'accord. Et pour le second, vous savez déjà ou pas encore ?
Ah non, puisque je ne sais pas qui va être qualifié et je ne joue pas au jeu des si. Enfin, moi, par principe, j'essaie de voir quel est mon devoir moral là, quel est mon souhait politique. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, moi, l'approche tout sauf le Front National, allons tous chez Macron pour éviter ça, allons tous vers celui qui est le plus haut dans les sondages, je déteste ce genre d'approche. C'est complètement contraire à l'esprit de la démocratie qui est de choisir ce qu'on veut et d'exercer sa souveraineté et pas d'exercer sa peur ou de faire des scénarios d'anticipation basée sur des sondages, etc.
Encore une fois, c'est ce que je disais à Antoine Bonneau, ça c'est un discours d'avant-premier tour. Mais est-ce qu'on peut encore tenir le même discours au lendemain d'un premier tour pour un second tour si l'un des deux candidats reste en lice s'appelle Marine Le Pen ?
Ça dépend du candidat qui est en face, si vous voulez. On peut, si vous voulez, je peux jouer aux différentes configurations. Imaginez, moi, par exemple, si il y avait.
Si je suis face à Marine Le Pen, est-ce que vous votez pour moi?
Je pense que la réponse est pourrie d'avance.
Non, mais c'est pas sûr, attention. Hein.
Non, oui,
alors,
oui.
Moi, oui, d'accord.
C'est très simple, je m'interroge.
C'est très simple. Non, pour moi, il y a beaucoup de scénarios où je m'abstiens, si on prend ça. C'est tous les scénarios qui consistent à reconduire des gouvernements qui continuent la politique néolibérale qui a été menée et qui, en plus, pour moi, mènent structurellement à la montée du Front National. Ça, je trouverais que c'est contre-productif.
On est d'accord sur beaucoup de choses.
Si je vous suis, c'est-à-dire que si Mélenchon arrive au deuxième tour, ok, votre choix est quasi fait.
Mais Mélenchon
si,
ou Poutou, oui.
Ou Poutou, ouais. Voilà. Ou
Hamon, s'il fait des progrès sur certaines questions. Vous voyez, donc je ne peux pas vous dire à l'avance, en basant sur les grandes prédictions, les deux tours Macron-Le Pen.
Non, mais là, sans jouer la boule de cristal et puis la discussion de comptoir, c'est-à-dire que si on se retrouve dans une situation où vous avez un choix de parti qui, pour vous, n'apportera aucune solution.
Non, on a le droit de prononcer les noms. Si c'est Macron-Le Pen,
oui, si
ou
c'est
si c'est
Fillon-Le
Pen.
Pen,
voilà, en gros.
Mais j'essayais de voir s'il y en avait un troisième.
Non,
il n'y en avait pas possible.
On
a déjà parlé de. Si c'est Fillon-Le Pen ou Macron-Le Pen, finalement, vous rejoignez Antoine Bouineau dans le sens où vous dites que l'abstention sera le meilleur des actes que j'aurai à faire dans cette situation-là, puisque je ne peux pas élire un Fillon ou un Macron.
Alors. Oui,
mais on essaye de nous corneriser là. Moi, c'est pour ça que j'ai...
Non, c'est intéressant parce que moi, je pense qu'il se passe avec Macron, par exemple. Moi, clairement, si j'irais pas, je vous dis ça là, mais bon, il faut que peut-être qu'en situation, ça va changer parce qu'il y a aussi un contexte émotionnel qui fait que. Hein, donc, c'est facile d'en parler froidement là, mais comme vous dites, il y a des questions qui se posent. Évidemment. Mais j'ai deux points par rapport à ça. D'abord, Macron. Le cas Macron. Moi, je suis persuadé que cette fois-ci, si on a Macron, c'est-à-dire ce qui représente la synthèse de toute cette logique. Désidéologisante, qui va dans le sens du néolibéralisme, etc. Voilà, on évitera le Front National pendant 5 ans et le coup suivant, on l'aura. Parce qu'à chaque fois, on a vu que cette logique-là, elle a fait augmenter le Front National. Donc moi, je me dis.
Il vaut mieux l'avoir tout de suite.
Ah non, alors.
Mais attendez, vous dites on est cornérisé, etc. Je suis désolé. C'est les questions que tout le monde se pose aujourd'hui
par rapport
à l'abstention. Oui. Donc, je vous tiens là sur le plateau,
va
au bout.
Oui.
Donc, il vaut mieux Le Pen tout de suite que Le Pen dans 5 ans.
Non, attendez, moi je vous dis, moi je m'abstiens. L'abstention, c'est aussi se retirer du jeu. C'est-à-dire, moi je pense que l'abstention.
Il faut répondre à ça quand même.
C'est laisser le terrain aux autres.
Oui, effectivement. Oui, alors, moi il y a des situations. Non, mais j'assume complètement ça. Il y a des situations où j'estime que là. Voilà, je ne peux pas faire ce choix-là. Je ne peux pas me demander est-ce que c'est mieux d'attendre 5 ans, est-ce que c'est mieux d'avoir tout dérégulé, ou est-ce que c'est mieux d'avoir la fermeture des frontières. Tous ces mots-là, moi je crois vraiment. On peut faire le scénario d'anticipation sur Le Pen, mais on peut faire aussi le scénario d'anticipation sur Macron. Moi, je crois beaucoup, sans mettre ça sur le même plan, c'est des plans différents. Mais je crois que, par exemple, l'extension du néolibéralisme, c'est quelque chose qui engendre de la violence. Ça ne sera peut-être pas des Adama Traoré à tous les coins de rue, mais ça sera la violence brutale du patronat, ça sera les Uber qui travaillent dans des cadences et des horaires pas possibles. Pour moi, ça représente une violence qui est moins, quelque part...
Je vais vous poser une question atroce. Et si on a le choix entre les deux violences ? Si la question se pose de cette manière, voilà, Macron, violence Uber, violence du patronat, etc., Le Pen, probabilité d'une violence à la Adama Traoré, on fait quoi ? On se retire ? Non, mais c'est une vraie question.
Moi, je me retire par faiblesse de. Alors, je verrai sur le moment, parce que les candidats ont le temps de... Moi, j'assume. Je veux dire, j'ai un peu cette humilité. Je ne peux pas vous dire ce que sera la France de Marine Le Pen. Il y a plein de gens qui jouent à ça. Je ne sais pas. Et la France de Macron, pareil, c'est hasardeux. Qu'est-ce qui sera le plus violent ?
On ne peut pas dire non plus que ce ne sera pas la France de Marine Le Pen. Enfin, je veux dire, en même temps, on a des indices, si vous voulez. Alors, attendez, Antoine Bueno qui...
Moi, je veux répondre très clairement à une question qui est hyper claire et qui est la question fondamentale. Je préfère Marine Le Pen dans de mauvaises conditions pour elle que Marine Le Pen dans de bonnes conditions pour elle. Et ça, c'est une question de timing. Et c'est une question de stratégie politique. Et je suis désolé, on est tous là à faire à échafauder des stratégies politiques. Tous, hein. Les partis du gouvernement dit républicain, les partis extrémistes, Marine Le Pen elle-même, etc. On est tous dans une stratégie. Donc moi, je réponds par une stratégie. Et puis...
Vous revenez au vote stratégique, alors. Passons.
C'est pas ça. C'est qu'on peut avoir des grilles de lecture du système politique et des menaces qui conduisent à des stratégies alternatives. Voilà. Et par ailleurs, oui, je fais un pari, c'est peut-être un pari abominable, c'est peut-être un pari extrêmement risqué, c'est peut-être la politique du pire. Je suis absolument persuadé que même si Marine Le Pen, aujourd'hui, a toutes les manettes, elle nous fait passer un très sale quart d'heure. Quand je parle d'un quart d'heure, c'est un très sale moment avec tout ce que vous avez évoqué, mais ça ne peut pas durer. Je ne crois pas une seule seconde que ça puisse durer.
Si vous me permettez, pas à nous autour de cette table. Parce qu'on risque pas, on n'est pas dans un risque fondamental de se trouver devant la matraque télescopique d'un CRS. Voilà.
Non, c'est vrai. Mais si, mais c'est vrai, probablement pas.
Derrière Le Pen et sa façade très fausse de dédiabolisation, que certains médias d'ailleurs ont accompagné, il y a quand même des crânes rasés qui sont rentrés dans les conseils régionaux en 2015. Notamment dans le sud, ça n'a pas fait moufter qui que ce soit. Et moi, c'est ça que je crains aussi dans la droite ligne d'une élection.
J'ai envie de parler à la citoyenne, si on peut juste oublier deux secondes la candidate, dans le cas où vous ne seriez pas au second tour de l'élection présidentielle, vous êtes déjà sûr que vous voterez ou vous dites, comme Nicolas Framont, ça dépendra de l'émotion du moment, du cas de figure?
Franchement, moi, je trouve ce qu'ils disent tous les deux n'est pas du tout stupide.
Et je vous dis,
moi je suis partagée. Il y a quelques années, je vous aurais dit, mais oui, bien sûr, on va descendre dans la rue, sauver la République, halte au fascisme. Ça fait 15 ans qu'on fait ça depuis le 21 avril 2002. Et depuis le 21 avril 2002, il n'y a que des répliques de ce phénomène-là. C'est-à-dire, le père est passé de combien ? 16% à aujourd'hui, dans les sondages, elle tutoie les 30%. Ça veut donc dire. Au premier tour. Ça veut donc dire que tout ce qui a été fait pendant ces 15 ans, au lieu de faire réduire le Front National, n'a fait que l'augmenter, doubler le score. Et le vote protestataire se transforme de plus en plus en vote d'adhésion. Ceux qui votent pour le Front National disent être sûrs à 80% de voter pour elle. C'est un score maximal par rapport aux autres candidats.
Donc si je vous entends bien, ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, c'est, si je suis pas au second tour moi-même, je ne suis pas certaine aujourd'hui.
Je ne veux pas conforter. Après, pour 15 ans, pareil, d'inertie, d'impuissance et de lâcheté, parce qu'on conforte un système qui est responsable de la montée du Front National. Et donc moi, par mon vote, on me demande de reconduire aux affaires des gens qui sont absolument responsables de cette situation, ils nous auront mis. Et ce geste-là, excusez-moi, je trouve qu'il est grave à commettre, parce qu'on a 15 ans d'arriéré derrière nous, d'expérience de la chose, de manif, de protestation, de sauvetage de la République, et aucune leçon n'a été tirée de ça. Le système ne s'est pas réformé, on a les mêmes acteurs qui sont encore là, et alors quoi ? En quoi mérite-t-il d'être au pouvoir aujourd'hui ?
Je vous entends bien.
Il faut avoir cette réflexion. On doit être des citoyens.
Ce que vous êtes en train de me dire, vous, responsable politique et ancienne ministre, c'est aujourd'hui, 9 mars,
Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est dans une situation actuellement où on est dans un vote systématiquement par défaut. On est dans un vote de dépit. On nous oblige à sauver la République. Mais ceux qui ont
ça vaut pas le coup ?
Ceux qui ont causé.
Mais
ce que je veux, c'est que nous soyons.
Juste sauver la République, c'est un truc que vous dites comme ça.
Je vais vous expliquer une chose.
Non, mais attendez, on nous oblige à sauver.
On a le droit.
Ça veut dire pas sauver la République.
On a le droit d'être un citoyen. On veut la sauver durablement. On a le droit d'être un citoyen éclairé, avec un esprit critique, qui réfléchit à l'acte qu'il commet en votant pour un tel ou un tel. Et aux conséquences. À court terme, à moyen terme et à long terme. Vous, à court terme, vous évitez Marine Le Pen. Et à moyen ou à long terme, vous donnez à Marine Le Pen une assurance d'être au pouvoir pour longtemps. Voilà. Et donc, moi, dans cette situation-là, oui, j'ai besoin de réfléchir. Oui, je ne peux pas répondre à l'injonction d'un système qui est complètement responsable de cette situation. J'ai envie qu'eux aussi se remettent en cause à un moment donné. D'abord, pour beaucoup d'entre eux, en se retirant, parce qu'il est temps. Et pour les autres qui restent, à changer leur mode de fonctionnement, une culture politique, en adopter une autre et à s'adapter au monde dans lequel nous sommes.
Ce qui veut dire, je vais vous provoquer, mais ce qui veut dire que, pour toutes les raisons que vous nous expliquez là, vous êtes prêt à prendre le risque des Adama Traoré, des migrants.
Je ne vous ai pas répondu non plus. Parce que je suis dans une situation. Oui. Parce que, pardon, ça mérite une réflexion qui va bien au-delà d'une semaine entre le premier et le deuxième tour. Et ça mérite une réflexion de plusieurs années dans laquelle je suis engagée. Et je n'ai pas fini.
Daniel Gillerman, c'est un piège.
Et je n'ai pas terminé.
Ce n'est pas vos questions le piège, c'est la situation qui est un piège. Il n'y a pas de bonne réponse.
Elle est terrible parce qu'elle fait de nous.
Il n'y a pas de bonne réponse, mais en même temps, il va falloir répondre.
Mais vous parlez d'Adama Traoré, mais ça n'a pas eu lieu sous un gouvernement frontiste. C'est-à-dire qu'à force d'attribuer tout le mal au Front National sur ces questions-là, du coup, on ne parle pas de la situation actuelle.
On en a parlé largement ici, on a reçu.
Oui,
non, mais je veux dire. Adama Traoré a eu lieu sous un gouvernement.
Dans cette perspective, je ne dis pas que vous n'en parlez pas.
Mais le cas de figure, c'est la possibilité. Oui. C'est 10, 20, 30 voilà, Adama Traoré. C'est ça le truc.
Ça, c'est vrai.
Non, mais aussi, regardons la situation actuelle. La violence du système actuel, ce n'est pas qu'une violence économique. Le recul des libertés individuelles, on l'a vu, et pourtant, on était dans un gouvernement socialiste, a priori ouvert sur le monde, etc. etc. Le sort des migrants, c'est pareil. Donc,
la difficulté, on est dans un moment vraiment de bascule. C'est pour ça que cette élection, elle est un peu spéciale. Et vous savez que les acteurs du système politique jouent avec Marine Le Pen. Ils adorent bien l'idée qu'elle soit au deuxième tour d'élection présidentielle parce que le type qui se retrouve en face, là, ce qui se joue entre les deux et troisième, c'est d'être deuxième, d'avoir les 22% qui, juste un point au-dessus du troisième, qui vous permet d'assurer. Comme ça, vous n'avez pas à faire le moindre effort, pas à présenter le moindre programme. Voilà. Les Français vont sortir dans la rue pour sauver la République et voter pour cette personne-là. Voilà, un vote par défaut qui va conduire à une catastrophe aussi. Alors, le problème, c'est que ça fait 15 ans qu'on fait ça. Ça fait 15 ans que ça passe ric-rac. Mais à un moment donné, ça passera plus. C'est-à-dire que le Front républicain, qui est une arnaque, hein, maintenant. Désormais, c'est une arnaque. Parce que c'était fait pour quelque part, colmater une brèche. Mais la brèche, elle est partout. Voilà. Donc, c'est devenu un truc complètement impuissant. La prochaine
On parlait de piège. Et en fait, moi, je me rends compte que je me suis piégé moi-même avec la manière dont je vous ai posé la question. C'est-à-dire que là, celle qui est en train de me répondre, je ne sais pas. C'est la citoyenne qui est en train de me répondre, je ne sais pas. Oui. Alors du coup, la responsable politique que je voudrais récupérer,
Je vous dis encore une fois, je suis dans une situation de réflexion parce que je veux vraiment la sauver, la République. Et je ne veux pas être complice de son enterrement final.
Quand est-ce qu'on va s'arrêter la réflexion?
Ça s'arrêtera au moment quand la situation politique va s'éclaircir. Et puis je peux être... Non mais attendez, l'élection, elle est spéciale ce sens où, contrairement aux autres élections, où les positions étaient stabilisées dès le mois de janvier-février, on sent que la fameuse cristallisation n'aura lieu que finalement qu'à quelques jours du premier tour. Parce que les candidats ne sont pas clairement identifiés, leurs positions ne sont pas stabilisées. Et donc à partir de là, nous sommes sur un paysage très mouvant. Attention, moi je me suis présentée dans cette élection en disant je vais être la candidate anti-Le Pen. Les choses sont claires, sans ambiguïté, sans ambiguïté. Et quand quelqu'un comme moi croise des crânes rasés dans la rue, je vous assure que c'est quelque chose d'une extrême, pour tout le monde c'est violent, enfin pour beaucoup de monde j'imagine que c'est violent, mais on se demande si on va sortir vivant. Vous voyez, parce que nous sommes un pays profondément ouvert.
Vous parlez à la première personne, c'est-à-dire vous parlez de votre expérience à vous, de femme noire.
La veille de 2015, des régionales.
Même de femme noire, ancienne ministre.
Ah, mais c'est pas le sujet, vous êtes dans la nuit, on vous reconnaît pas, machin, vous faites votre truc, vous faites votre route. Donc, il y a un sentiment de danger même physique avec ces personnes-là. Je vous parle pas de Marine Le Pen. Mais je vous parle de tout ce que ça charrie derrière, tous ceux qui vont se sentir libres de faire ce qu'ils veulent. Tous ceux qu'on croyait avoir disparu vont ressortir. Et donc, ça va mettre en danger physique une grande partie de la population. Et pas seulement issue de l'immigration, mais aussi les autres.
Et en dépit de ça, vous êtes incapable de dire aujourd'hui,
Je suis en train de vous dire, c'est que je ne veux pas qu'elle s'installe dans notre pays, que je ne veux pas que, sous prétexte de dédiabolisation, Marine Le Pen réussisse son hold-up sur la démocratie française, sur la République. C'est ça que je ne veux pas. Et pour ça...
Mais alors là, je ne comprends plus du tout. Vous ne pensez pas qu'elle le réussira davantage si elle est élue présidente de la République que si elle est battue.
Quand en 2002, vous aviez un face-à-face.
Je ne veux pas qu'elle réussisse sans...
Mais je ne veux pas qu'elle soit élue. Je ne veux pas qu'elle soit élue. Moi, je me présente pour pas qu'elle soit élue.
Si elle est battue, est-ce que le hold-up n'est pas un tout petit peu plus raté que si elle est élue?
Ma réflexion, elle commence là, dans l'idée qu'il n'y a pas de fatalité pour soi comme pour son pays. Et là, tout le monde agit comme s'il était au deuxième tour. c'est une prophétie autoréalisatrice. Tout le monde considère qu'elle est au deuxième tour. Toutes les stratégies politiques tournent autour de ça.
Enfin, les sondeurs considèrent, oui.
Toutes les même les états-majors
font leurs stratégies. Parce qu'ils lisent tous les sondages, oui.
Font leurs stratégies, qui ont tous été démentis hein, ces dernières années.
Oui, on est bien d'accord.
Tous étaient démentis, et pourtant on continue. Et donc, toute leur stratégie politique consiste à considérer que c'est acquis, elle est au deuxième tour. Le mot est prononcé dans les états-majors politiques. Moi, pourquoi je considère que ce n'est pas acquis ? C'est parce que je veux que dans cette élection présidentielle exceptionnelle, année de bascule, en France comme dans le reste du monde, qu'il y ait du pluralisme démocratique. Pourquoi je me présente là et pas en 2012 ou en 2022 ? Parce que celle-là, elle est spéciale. Dès le premier jour, le 21 avril 2016, quand je me suis déclarée, et je l'ai fait exprès, j'ai dit parce que c'est une élection qui sera différente des autres. Parce que le pluralisme démocratique doit exister là, pour ne pas que les gens qui ne veulent pas du système n'aient qu'un seul choix, le bulletin Marine Le Pen. Il faut lui prendre les quelques points qui l'empêchent d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et donc, il n'y a pas de fatalité.
Vous êtes approuvé par l'abstentionniste en chef, là.
Dont
vous venez de gagner la voix, j'ai l'impression.
Non, mais vous voulez m'enfermer dans un scénario et me dire, voilà, vous êtes piégé, vous devez me dire là tout de suite. Eh bien, je ne veux pas que cette situation soit devant moi.
Bon, vous avez un électeur de plus. Je me trompe ?
Ah, il ne faut peut-être pas exagérer. Non, mais je vais répondre.
Il n'y a pas de centriste. Non, tu ne vas pas pouvoir voter pour qui que ce soit, si ce n'est pour.
Non, mais je veux répondre sérieusement à cette petite boutade. Moi, ce que je ne suis pas un illuminé de l'abstention. Je dis juste que c'est une arme et qu'il faut le concevoir comme telle entre les mains du citoyen. Ce n'est pas parce qu'on a une arme qu'on va s'en servir. En revanche, à partir du moment. Pas forcément.
Il me semble que c'est clair. Non seulement il y a une arme, mais je m'en sers avec les deux mains.
Je vais être extrêmement clair. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est des réformes institutionnelles. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut négocier avec un ou plusieurs candidats des réformes institutionnelles de fond, alors là, oui, pourquoi pas retourner aux urnes.
Vous n'avez pas appelé votre livre « J'appelle des réformes institutionnelles ». Ça aurait été plus honnête.
Oui, d'accord, mais c'est moins vendeur aussi. Vous savez, il y a des raisons marketing. Mais on dit tout, on est clair.
Et bien avec son temps.
On a le même âge. Hein.
Non, même pas, il était plus jeune.
Oui, à peine.
Bon, on avance un peu dans l'émission, non, parce qu'on est parti dans une discussion. Légèrement café du commerce, mais tout à fait passionnante. Tout à fait passionnante. Non, mais...
C'est vous qui avez fait un scénario. Et moi, je vous dis, je ne veux pas de scénario.
Non, j'ai bien compris.
C'est la différence entre un observateur et un affaire.
J'assume. J'assume le café du commerce. C'est vraiment les questions
On peut inviter nos abonnés, nos spectateurs à boire un café du commerce avec nous.
Voilà. Et il est bon en plus. Alors, si on peut juste. Je voudrais qu'on dise un mot des responsables politiques qui préconisent l'obligation de voter.
Oui, parce que ça fait partie aussi des solutions qui peuvent être apportées au fait que les gens ne se déplacent pas pour voter. L'idée, c'est de les obliger à voter. C'est notamment une des propositions, enfin vous en parlez dans votre ouvrage, le manifeste pour l'abstention, c'est une proposition portée notamment par le député vert qui est devenu socialiste depuis François de Rugy. Il vous rappelait que le député de Loire-Atlantique a déposé une proposition de loi en mars 2015 pour instaurer ce vote obligatoire. C'est une proposition qu'il a renouvelé quand il était candidat à la primaire de la gauche. Et comme il expliquait sur LCI, c'était le 20 janvier dernier.
Le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc, c'est deux propositions qui vont ensemble parce qu'on constate depuis des années une abstention massive. Et à chaque soirée électorale, beaucoup d'hommes politiques, de commentateurs viennent pleurer sur les plateaux de télévision en disant c'est vraiment le mal démocratique, l'affaiblissement de la démocratie, c'est l'abstention. Puis après, il ne se passe rien. Et donc moi je dis qu'il faut retrouver un suffrage vraiment universel. C'est la base de la démocratie, c'est le suffrage universel. Avec 50% d'abstention ou plus, c'est virtuel. Il n'y a plus de suffrage universel. Et puis, le vote obligatoire, c'est aussi obliger les candidats et les futurs élus à s'intéresser à tout le monde, à ne pas se dire, après tout, puisque... il y a certaines catégories qui ne votent pas, eh bien, on ne va plus faire de politique pour eux. Tandis que si on a un vote obligatoire, on réintègre dans la démocratie tout le monde.
Je ne sais pas pourquoi on a passé cet extrait. D'ailleurs, il me semble connaître, anticiper d'avance votre réaction à tous les trois à cette proposition.
Oui, alors moi, c'est un des trucs qui me hérisse le plus le poil. En revanche, écoutez ça m'amuse fortement parce qu'il parle de lier le vote blanc et le vote obligatoire, ce qui est déjà un petit peu plus intéressant. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a proposé dans sa proposition de loi.
Il a pu évoluer.
C'est uniquement le vote obligatoire, ce qui est un suffrage censitaire inversé. C'est merveilleux. C'est-à-dire que je suis... parce que c'est sanctionné par une amende hein, quand on ne va pas voter. Donc j'ai du pognon, bah, je peux me permettre d'être abstentionniste. En revanche, je suis indigent, j'ai le flingue sur la tempe et je suis obligé d'aller aux urnes. Non, mais c'est vraiment l'autoritarisme.
Oui, totalement. En fait, si le seul moyen de rendre le vote obligatoire, c'est de mettre des amendes. Or, ceux qui s'abstiennent le plus sont les jeunes et les classes populaires, donc ça n'a aucun sens. Et puis. Excusez-moi, de la part de François Drugy, je trouve ça fou, c'est quand même quelqu'un, il s'étonne que la classe politique suscite une désaffection, mais ce monsieur a quand même participé à une primaire en s'engageant à en respecter les résultats, et finalement il a rejoint le camp adverse. Mais c'est quoi, et après il nous fait des leçons de civisme, c'est quand même la meilleure, non?
C'était avant. Enfin, juste à sa décharge, c'était avant.
Oui,
c'était
avant.
Quelques jours avant qu'il rallie Macron.
Bien sûr, mais vous voyez les résultats, quoi.
Non, mais
il y a, pour moi, c'est vraiment une proposition d'apparatchik qui permet de contourner le problème, de l'éviter. Le problème, c'est pas que les gens n'aillent pas voter. Le problème, c'est qu'ils ne donnent pas envie qu'on vote pour eux. Donc, la vraie réforme consisterait à complètement révolutionner ce système démocratique pour que l'offre politique soit beaucoup plus attractive et que les gens aient à y voter, non pas parce qu'ils sont obligés ou par dépit, mais parce qu'ils ont envie.
Dans mon livre, je calcule sa facture, hein, quand même. Ça, je me suis amusé parce que lui-même...
La facture de qui?
Eh bien, la facture de François Drugy, puisqu'il nous dit qu'il ne faut pas s'abstenir. Lui-même, il n'a pas arrêté de s'abstenir en tant que député. Donc, j'ai calculé tous les scrutins dont on a les résultats, et il en manque beaucoup. Ça fait une sacrée dette pour la République. Je ne sais plus, on est de l'ordre de 100 000 euros, je ne sais pas quoi. Je me demande s'il fait...
On va lui envoyer la facture. On parle de François Drugy, mais c'est une proposition qui est défendue aussi dans le programme de la France insoumise par Mélenchon. C'est-à-dire que lui aussi. C'est juste pour pas reléguer le pauvre Drugy à cette proposition-là. C'est aussi une proposition de Mélenchon qui propose un vote obligatoire, mais également de prendre en compte le vote blanc. C'est ce qu'il a proposé Drugy à la primaire.
Du vote blanc. Et d'ailleurs, avec le parti du vote blanc, la reconnaissance du vote blanc, je vais faire un lapsus parce qu'il existe en France un parti du vote blanc avec un responsable, c'est Stéphane Guyot, avec lequel on va travailler ensemble sur notre plateforme La France qui ose. Donc c'est pour vous dire que c'est une véritable. Moi je trouve que c'est important. Je ne vous parle pas de la loi de 2013 qui n'était pas.
Non.
Une reconnaissance du vote blanc, c'est une arnaque, cette histoire-là, ça a été présenté.
Non, on le comptabilise.
On ne fait que compter.
On
ne fait que compter, mais on n'intègre pas dans les suffrages exprimés.
Voilà.
Et donc, en fait, ça ne change rien. Alors que si, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de reconnaître le vote blanc que d'obliger les gens à voter sous peine d'amende. Pourquoi? Parce que ce vote blanc, le système politique vivrait sous la menace de ce vote blanc qui puisse être majoritaire, une élection doit être annulée, et donc ça les obligerait finalement à modifier tout. Le recrutement, l'offre politique, la manière de vous voyez ce que je veux dire?
Oui. Enfin, il y aurait une menace encore plus terrible, et moi qui me semble plus intéressante, si je peux me mêler au débat, ce serait de proposer la révocation des élus. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont un programme, on les élit, ils l'ont pas retenu.
Et on propose les jurés citoyens à mi-mandat, qui permettent de faire, dans chaque circonscription, au niveau des députés, un bilan d'étape, si on peut dire, sur leur activité.
Et puis, c'est aussi une proposition Mélenchon, une des propositions institutionnelles phares de Mélenchon. Ah, vous savez, alors ça, ce serait un scoop. Hein.
Non, mais je m'inquiète pour lui.
Ah, pardon, je croyais que vous m'aviez dit, je vais voter pour lui.
Non, je ne peux pas voter pour...
C'est quelque chose que vous proposez dans votre programme, la révocation?
Oui, avec les jurés.
Avec les jurés?
Oui.
D'accord.
Okay.
Donc au moins deux.
Alors, donc vous vous battez pour amener les. Oui, alors ça, on est bien d'accord. Mais là, en l'occurrence, vous battez pour amener les gens au bureau de vote à l'élection. Vous parcourez les campagnes. Vous n'êtes pas la seule. Les initiatives se multiplient. Je voudrais qu'on s'arrête sur une.
Ouais.
Ça se passe à Strasbourg.
Et c'est à l'initiative d'un collectif de jeunes, de 11 jeunes, pardon, qui sont issus d'un quartier, du quartier Neuhof à Strasbourg, et qui avaient l'aide du Centre social et culturel du coin a lancé un challenge citoyen pour inciter les habitants à s'inscrire sur les listes électorales et à voter à la présidentielle de 2017, celle qui arrive là. Et c'est une initiative qui est devenue nationale et qui a intéressé les caméras de France 2. C'était en mai 2016. On regarde.
Le Neuhof à Strasbourg, ce sont 20 000 habitants et 80% d'abstention aux dernières élections régionales. Un constat qui a poussé les jeunes du quartier à se mobiliser pour inciter les habitants à voter. Première étape, faciliter l'inscription sur les listes électorales. Téléphone portable et formulaire à la main, c'est parti pour une heure de porte-à-porte.
Ça veut maintenant, tout le monde est au courant et tout le monde va se réveiller. Et voilà, après, chacun est libre de voter pour qui il veut. Mais...
Il faut voter.
Il faut voter, ouais.
Le Neuf n'est pas un cas isolé. Alors le collectif strasbourgeois a lancé un défi à tous les quartiers prioritaires de France. Pour gagner et convaincre, l'équipe du Neuf est présente partout, dans les immeubles, à la sortie des écoles ou aux fêtes du quartier. En quelques jours, ils ont déjà inscrit 30 personnes supplémentaires.
Suite à ça, vous allez recevoir un mail de confirmation d'inscription. Cette rencontre-là nous permet aussi de leur montrer l'importance des votes. Ça nous permet de discuter, de mettre en avant tout ce qui est citoyenneté, le devoir de le faire.
La démarche est simple, il suffit aux habitants d'apporter une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
C'était pas long, c'était vite fait. Vous aurez voté ? Oui ?
Donc à l'appui de cette initiative Challenge Citoyen, le collectif fait une petite pub, une petite campagne, on regarde.
On a enfin lancé un défi à tous les quartiers de France.
Participez au grand Challenge Citoyen.
Le principe est simple.
Il suffit que votre quartier affiche le meilleur taux de participation au premier tour des élections présidentielles.
Alors, faites bouger votre quartier.
Mobilisons-nous.
Et qu'on arrête de dire que dans les quartiers,
on ne sait pas s'engager.
Le quartier qui mobilisera le plus de monde
remportera une enveloppe financière.
Les habitants décideront ensemble de son utilisation.
Et de grands artistes viendront chez vous, dans votre quartier, fêter avec vous la victoire à ce challenge.
Alors, on compte sur vous.
Alors, c'est mignon, dites-vous, mais au-delà du c'est mignon, quel est le regard que vous portez sur à la fois cette initiative et sa mise en image dans le clip?
Au-delà du c'est mignon, il y a une confusion, parce que l'inscription sur les listes électorales, alors là, ils ont 100% raison, il faut absolument s'inscrire sur les listes électorales pour justement pouvoir s'abstenir ensuite. Voilà, c'est ça ma conclusion. C'est-à-dire que le droit de vote est un droit à deux étages. Eh bien oui, parce que sinon, évidemment, il n'y a pas d'abstention.
Alors
justement, quand vous dites que je suis humoriste, en fait, quand je parle d'abstention, je suis sérieux. J'ai failli le faire tout à l'heure, mais je le fais maintenant, quand on a l'occasion. Effectivement, si on n'est pas inscrit sur la liste électorale, on n'est pas abstentionniste. Et être abstentionniste, dans la manière dont je le conçois, c'est un acte et ça peut devenir une force politique. Et donc, effectivement, il faut être inscrit sur la liste.
Nicolas Framont.
Oui, moi je pense que la malinscription, la non-inscription, c'est aussi une cause d'abstention sur laquelle par ailleurs une sociologue comme Cécile Bracconi a travaillé sur ces quartiers où effectivement il n'y a pas d'inscription, donc la question ne se pose même pas. Et donc moi je pense que c'est une bonne initiative. Par contre, moi je suis gêné par ce genre de clip, ça participe pour moi de cette opération de réenchantement de la politique, c'est-à-dire que plutôt que de résoudre les problèmes, plutôt que de montrer qu'il y a de l'enjeu, qu'il y a du clivage, etc., on en fait une vision citoyenne enchantée du vote, comme finalement le vote n'est plus l'expression de la souveraineté populaire, mais le vote est l'expression de l'adhésion au pays. Et c'est ça qu'ils veulent faire. En quelque part, il y a une forme de culpabilisation aussi des banlieues, c'est de dire votez, voilà, montrez que vous vous adhérez, que vous êtes avec nous, qu'on est ensemble, et vous aurez une récompense, que je trouve fou quand même. Ça veut dire même que celui qui aura le plus voté, il aura son enveloppe. Enfin, déjà, qu'est-ce que c'est que cette gestion territoriale? Est-ce qu'on va multiplier les initiatives de ce genre? Ça n'a pas vraiment de sens. Et moi, je trouve que ça, pour moi, c'est un discours moraliste, ce n'est pas un discours politique, ça me pose problème.
Paternaliste. Ouais. Et en fait, la question qui vient après, c'est quoi? Pour voter pour qui?
Ben oui.
Et c'est là où ça bloque. Ben voilà. Et là, l'autre, il a beau être inscrit, il n'aura pas voté parce qu'il ne sait pas pour qui voter.
Ben voilà.
Je pense d'ailleurs que toute cette énergie dépensée, parce qu'il faut un certain talent pour faire ces vidéos, on pourrait régler ce problème en faisant l'inscription obligatoire sur les listes, comme moi je propose. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui à peu près 9 millions et demi de personnes aux élections de 2012 présidentielles qui n'étaient pas inscrites ou mal inscrites. Et c'est le score de Nicolas Sarkozy au premier tour. C'est énorme. C'est-à-dire que ces personnes-là peuvent faire la différence. Alors, il y a des tas de raisons qui font qu'ils ne sont pas inscrits ou mal inscrits. Mais en assurant l'inscription obligatoire, on n'aurait pas besoin de faire ce genre de choses.
Y compris sous peine d'amende.
Vous déménagez dans une... Oui. Parce que
si vous ne vous inscrivez pas, qu'est-ce qui se passe dans votre système?
Rien, vous êtes inscrit d'office.
Ah oui, c'est ça,
vous êtes inscrit d'office.
C'est pas obligatoire, c'est d'office.
C'est l'administration, voilà, c'est d'office. Ça veut donc dire que lorsque vous déménagez dans un endroit, plutôt que de faire des fin décembre, d'aller faire la queue devant votre mairie pour vous inscrire et ne pas oublier, etc., vous déménagez, vous faites les formalités de votre déménagement, vous êtes inscrit d'office.
Pourquoi ça ne se fait pas?
Il y a des pays qui le font.
Pourquoi ça ne se fait pas?
Je ne sais pas.
Je ne sais pas, vous avez été ministre ou non? pourquoi ça se fait pas?
Il y a plein de pays qui le font.
Ça n'a pas l'air compliqué.
Non,
ça, pas l'air
non, ça, ça se joue au niveau des mairies.
Automatiquement, pourquoi pas ça?
C'est voilà. Et ça existe
personne
pour les jeunes.
Personne s'est demandé, non, là, vous n'êtes pas demandé.
Ça existe pour les 18 ans.
J'avoue que
les 18 ans,
je croyais que c'était obligatoire.
Non, mais les 18 ans sont inscrits d'office. Donc, on peut exactement faire la même chose pour toute la population. Et on règle le problème pour 10 millions de personnes quand même. Et ce genre de choses, je pense, ne règle toujours pas le problème de l'offre politique et sa nature. Donc on donne la possibilité aux gens de participer, mais pour participer, pour aller vers qui, cette question fondamentale, c'est pas comme ça qu'on réglera.
Très bien, merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Je voudrais qu'on termine par un tout petit montage qui m'a semblé être peut-être l'image politique la plus caractéristique de cette avant-élection. C'est le, on pourrait appeler ça le moment de la renonciation.
J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat.
J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance.
Oui, je retire ma candidature à l'élection présidentielle.
Je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne serai pas candidat à la présidence de la République.
Alors, je ne sais pas, moi, c'est un tout petit peu différent.
Il n'a
pas
décidé
tout seul de départ, quoi. Il n'a pas décidé tout seul de...
Il me semble qu'on n'avait jamais vu ça, tant de...
Oui, moi, je voudrais inviter tous les citoyens, d'ailleurs, qui ne souhaitent pas être candidats à l'élection présidentielle, à en informer tout le monde.
Oui.
Non, moi je pense que c'est pas une question de sagesse, c'est des gens qui étaient qui pouvaient pas faire autrement.
Il y a plein de moments où il y en a plein qui peuvent pas faire autrement et qui y vont quand même. Hein. Là,
Oui, mais là on est arrivé. Regardez, vous prenez l'exemple
de Bayrou aurait pu y aller.
Ils ont été acculés. Non, ils pouvaient pas.
Macron lui avait complètement siphonné son discours. Sur Jadot, c'est pareil. Ils se sont leur parti s'est délité entre des tendances trop divergentes. Ils n'avaient pas du tout ses signatures. Ils n'avaient plus aucune cohérence. Donc le fait qu'ils se soient ralliés à Hamon, c'était la chose la plus sensée, la dernière chose qu'ils pouvaient faire. Moi, pour moi, je salue pas leur sagesse. Je dis juste que c'est des gens qui prennent acte de la décomposition de leur force politique. Bon.
Mais je réserverai un traitement particulier au président de la République, François Hollande. Certes, je ne suis pas militante socialiste, mais si j'étais militante socialiste, je lui en voudrais énormément de s'être retirée comme ça. Et je dirais même qu'en tant que citoyenne, j'ai des raisons de lui en vouloir, parce que ce message de renoncement a affaibli la fonction présidentielle. Parce que, d'abord, le message qui est envoyé aux gens, c'est « bon, bah, si c'est difficile, bah, on laisse tomber ». Et on a même beau être président de la République, c'est difficile, on laisse tomber, parce qu'il a été empêché. Il a été empêché par deux impétrants qu'il a lui-même placés là. Et puis, la suite de la présidence est affaiblie, parce qu'il va sur la scène internationale, voir des homologues qui savent cette faiblesse-là. Quand il est passé à la télévision, moi, j'ai espéré qu'il ne renonce pas. Pour cette raison-là. Et donc, c'est un renoncement un peu...
Pour l'efficacité des 4 mois restants du quinquennat.
Oui, pour la fonction. Les institutions.
On en a passé en revue les candidats, il en reste un, enfin non-candidat, qui est celui de Juppé. Est-ce que vous feriez le même constat, qu'il a été empêché ou que... Parce que rien n'empêchait Juppé, finalement, de s'imposer.
Il y a eu ce discours absolument incroyable. On demande du renouvellement et de l'exemplarité. Je n'incarne ni l'un ni l'autre. Moi, je n'avais jamais entendu ça.
Mais c'est une phrase très forte. C'était la plus forte de son discours, c'est sûr. Mais ce qui me frappe, en fait, à travers le cas d'Alain Juppé, il a attendu qu'on l'appelle. Lui servir le poste comme sur un plateau.
C'est une question d'ego.
Il est poli.
Le mythe du sauveur.
Non, mais en fait, c'est quelque chose de plus profond que ça. C'est-à-dire que il a été bien élevé, il est poli, s'il vous plaît, merci, est-ce que je peux. Mais le pouvoir, il se demande pas, il se prend. Et ce qui est frappant dans la vraie primaire, c'était ça. C'est-à-dire que la droite n'est pas sa culture politique, c'est pas les primaires civilisées, démocratiques où on discute projet. Le pouvoir se prend par la force. Le leadership se prend par la force. Et donc, quand la droite s'est
mise... Là, vous parlez du Parti des Républicains.
C'est pas du Parti des Républicains. Et le fait qu'ils aient fait des primaires avec quelqu'un qui a gagné, on a considéré, ça y est, c'est fini, il a gagné, en plus à 70%, très bien. Mais moi, je me suis dit, la vraie primaire commence le soir du deuxième tour de la primaire. Parce qu'il n'avait pas pour autant pris le pouvoir. Et le pouvoir ne pouvait se prendre que par la force, et il l'a prise là.
Et là, selon vous, c'est fini
ou il ça l'a prise là.
Oui, selon vous, c'est fini, là. La primaire de la droite est terminée, là.
Oui, parce que là, il a pris le pouvoir symboliquement.
On sait jamais.
Il l'a pris par, en imposant à un comité politique cette déclaration inouïe de soutien unanime, alors qu'ils étaient rentrés dans cette salle pour lui couper la tête.
Enfin, en même temps, le rebondissement d'aujourd'hui, c'est que Sarkozy est en train de placer ses pions dans sa campagne. Dans la campagne
oui,
de Fillon.
Alors,
donc, c'est peut-être pas tout à fait
fini. C'est pas tout à fait fini, c'est peut-être lui qui gagnera le leadership symbolique au final.
Okay. Hein. Très bien, merci à tous les trois d'avoir mené cette passionnante discussion avec nous. Merci de l'avoir suivi, méditez-la bien et à la semaine prochaine.